Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller. Chapitre 7. Une nouvelle semaine commence dans le bocage. La cellule de crise s'est réunie à la gendarmerie de Lianceville. Outre les gendarmes, il y a Johan Mauduit, le maire, et le procureur de la République. Les enquêteurs font le point sur leurs investigations. Si la disparition ne fait aucun doute, le sort de Benjamin est énigmatique. A-t-il été enlevé par un maniaque sexuel? A-t-il été exécuté par son ravisseur? Ce qui inquiète, c'est qu'aucune demande sérieuse ne soit parvenue. Il y a eu quelques revendications téléphoniques, dont toutes ont abouti à l'arrestation et la mise en examen des plaisantins de mauvais goût. Pour un bref instant de notoriété, des farfelus sont prêts à tout. Heureusement, la justice s'occupe de ces énergumènes. Les gendarmes font part au procureur de leurs recherches. Une certitude. Le garçon a été aperçu pour la dernière fois par deux villageois à la même heure, pratiquement au même endroit. Il se dirigeait vers les champs situés à droite de la ferme. Sa mère se trouvait à la maison à ce moment-là. Son père était chez un ami au village. Guillaume a un témoin. Mais pas Aurélie qui était seule. Les chiens n'ont rien trouvé. C'est la saison des foins et les pollens ainsi que la coupe des graminées perturbent fortement leur odorat. Les hommes grenouilles n'ont pas eu plus de succès. Les investigations auprès des villageois n'ont pas permis de déceler des incohérences dans les déclarations des uns et des autres. Il n'a pas non plus été décelé des zones troubles dans la vie du couple Les Chiens. Leur existence est transparente. Il y a bien un soupirant et conduit par Aurélie, mais cela date d'avant le mariage, il y a environ 8 ans. Depuis, personne n'a remarqué un comportement anormal de la part d'Éric Palu ou d'Aurélie. Les premières auditions des pèlerins ont commencé. Rien de folichon pour l'instant. Il y a environ 60 personnes à rencontrer. Et à 7 heures, la moitié a été entendue. Le procureur interroge longuement les gendarmes. Il veut s'imprégner totalement de l'affaire. Les questions fusent. Aucune n'est éludée. Certaines concernent l'aspect matériel de l'affaire, l'organisation des barrages, le nombre de chiens mobilisés, etc. D'autres s'apparentent plus à la psychologie. L'organisation des interrogatoires semble le tenir particulièrement à cœur. Le maire est entendu à son tour. Le procureur lui demande s'il a en tête une liste de gens à surveiller particulièrement. Il fait répéter la question. Le procureur veut simplement savoir le nombre de personnes présentant un risque par leur état psychique ou leur caractère violent. Il est étonné par la réponse de l'élu qui lui rétorque qu'à Lianceville, tous les citoyens sont normaux, certains l'étant plus que d'autres. Il n'insiste pas sur le sujet. À l'issue de la réunion, il est décidé de confier la suite de l'enquête à un service spécialisé. Le procureur s'occupe de l'alerte de cette section qui travaille sur les affaires de disparition non résolues. Les gendarmes ont rencontré des pèlerins de tout poil. Il y a le mystique qui égrène son chapelet en chantant des cantiques entre chaque question. Il y a l'illuminé qui rencontre Jésus à chaque croisement. Il y a celui qui se mortifie en se flagellant. Il y a les adorateurs d'un saint ou d'une sainte. Ils ne jurent que par ça. Il y a celui qui embrasse régulièrement les images pieuses insérées dans les pages de sa Bible. À la fin de la journée, c'est épuisé moralement et physiquement que les enquêteurs font un ultime point avant d'aller se coucher. La piste des pèlerins n'est pas meilleure que le reste. Un gendarme fait même observer qu'en cas de préméditation, il aurait fallu savoir que Benjamin n'avait pas classe exceptionnellement. Ce soir, la lumière reste allumée fort tard à la ferme. Le vieux Hector tourne en rond devant l'horloge. Aurélie et Guillaume n'arrivent pas à trouver le sommeil. Tous deux dans la cuisine se regardent sans parler. Leurs yeux rougis et humides parlent pour eux. Ils se tiennent la main. Guillaume rompt le silence le premier. Il se demande ce qu'il a fait pour recevoir un tel châtiment. Aurélie lui serre encore plus la main pour lui crier que ce n'est pas de sa faute. C'est elle, la mère indigne. Guillaume se lève et serre sa femme dans ses bras. C'est leur quotidien depuis 6 jours. Le lieutenant Gilles est responsable de la cellule spécialisée dans les recherches criminelles. Frais et moulu de l'École nationale des officiers de la gendarmerie, il est arrivé dans les premiers de sa promotion. Cela lui a permis de choisir le service d'affectation. Il a un penchant pour les enquêtes difficiles. Les cas désespérés ne lui font pas peur. Il faut dire qu'il a été pendant 5 ans l'adjoint de l'adjudant-chef Sagol dans une brigade de recherche dans les Alpes. À bonne école, le futur lieutenant a beaucoup appris et s'est passionné pour ce travail de fourmi où le moindre détail peut vous faire rater ou réussir une enquête. À l'issue d'une collaboration exemplaire, les deux hommes se sont séparés. Sagol a rejoint le service scientifique de la gendarmerie où il s'occupe de formation. Gilles, ayant réussi le concours d'officier, a intégré pendant près de 18 mois l'école de Melun. Il se téléphone au moins une fois par quinzaine et se voit environ une fois par trimestre. Aujourd'hui, le lieutenant hérite d'un dossier particulièrement difficile et chargé émotionnellement. S'occuper de la disparition d'un enfant n'est pas chose aisée. Il faut évacuer ses sentiments et opérer avec tact et rigueur. De ce point de vue, il a fait ses preuves. Parti très tôt de la région parisienne, il se présente vers 9 heures à la brigade de gendarmerie de Lianceville. Doté d'une grande capacité d'écoute, il se fait présenter les gendarmes qui ont œuvré nuit et jour depuis le début de l'affaire. Il mémorise la version de chacun et prête une oreille attentive au résumé de l'affaire que lui fait le gendarme Cuchet. Il pose beaucoup de questions. Les gendarmes sont surpris par la mémoire et la vivacité d'esprit du nouveau responsable de l'enquête. S'il y avait une crainte concernant son arrivée dans une brigade qui a fait toute la besogne depuis une semaine, elle se dissipe rapidement. Tous s'accordent à penser qu'ils ont affaire à un professionnel et un homme de dialogue. Après avoir longuement écouté ses collègues, il prend la situation en main. Dans un premier temps, il remercie avec chaleur et sincérité les hommes de terrain qui ont fouillé sans relâche pour trouver Benjamin. Ensuite, il demande au chef de brigade d'avoir 2 de ses subordonnés en permanence avec lui, au cœur de l'enquête. Il argumente en avançant un motif imparable, la connaissance du milieu. L'adjudant-chef Flao acquiesce. C'est d'accord. Il demande des volontaires. Tous le sont. C'est un dilemme. Qui choisir? Gilles demande quels sont ceux qui sont originaires de la région. 2 doigts se lèvent. Il veut ensuite savoir quels sont les 2 plus anciens dans la brigade. Coïncidence, ce sont les 2 mêmes. Le sort en est jeté. Ce seront ces 2-là. Joël Buteau est grand et rouquin. Il a 38 ans. Et originaire d'un village situé à une 30aine de kilomètres de Lianceville. Jean-Paul Angot est le second. Il a 33 ans et vient d'une bourgade assez proche d'ici, une 15aine de kilomètres tout au plus. Il est blond, sensiblement du même gabarit que son collègue Buteau. Gilles explique à tous l'organisation de la cellule. 4 collègues arriveront de région parisienne pour renforcer l'effectif. Ils seront donc 7 au total. Bien entendu, ils travailleront en étroite collaboration avec la brigade. La seule différence sur laquelle il insiste, c'est qu'ils ne s'occuperont que de savoir ce qu'est devenu Benjamin. Le lieutenant reprend le résumé de l'affaire faite par Cuchet. Il y a un point sur lequel il souhaite un éclaircissement. Savoir si les plongeurs sont intervenus ailleurs que dans l'étang. La réponse est négative. Les plongeurs sont repartis après la fouille du plan d'eau. Gilles en vient à la véritable question qu'il se pose depuis un moment. Les puits et les granges de la région ont-ils été inspectés? Si les granges ont été vérifiées, il n'en est pas de même pour les puits. Les plongeurs sont donc rappelés pour inspecter tous les puits dans un périmètre de 5 km. Le lieutenant a mis ses hommes en place. Il reprend tous les témoignages et décide de fouiller aussi dans le passé des villageois. Il faut trouver la raison de la disparition de Benjamin. Il a pris rendez-vous avec les époux Léchin. Il se rendra chez eux. C'est plus délicat, mais bien mieux pour établir un climat de confiance. Mylène Vidal, l'institutrice du Garçonnet, est bouleversée par ce qui arrive et culpabilise. Le lieutenant essaie de la mettre à l'aise. Elle vient de terminer sa classe. Les enfants seront en vacances à la fin de la semaine. Son absence l'après-midi de la disparition est due à une réunion pédagogique à l'inspection académique. Madame Vidal n'avait pas envie de se rendre à cette grande messe, car il n'en ressort jamais grand-chose. Le lieutenant veut connaître la date de la décision de fermer la classe l'après-midi de la disparition. Finalement, elle s'est décidée la veille, ce qui explique qu'elle ait été communiquée aux parents au dernier moment. Georges Vidal est artisan charpentier. Collaborateurs du lieutenant sont allés l'entendre sur un chantier dans le centre du village. Il travaille sur un vieux bâtiment en cours de rénovation. Au moment de la disparition du jeune garçon, il était sur le toit de cette maison, à la vue de tout le village. Rapidement, un voisin et un ouvrier confortent l'alibi. L'audition n'apporte pas d'éclairage nouveau sur l'affaire. Les enquêteurs souhaitent rencontrer ses enfants. En 2 minutes, le charpentier est chez lui. Les jumeaux sont là, en train de regarder la télévision. Le père explique rapidement aux deux garçons de quoi il retourne. Chaque garçon est interrogé séparément dans leur chambre. Les jumeaux sont rigoureusement identiques jusque dans leur timbre de voix. Connaissaient-ils bien Benjamin? Ils répondent qu'ils le voient de temps en temps, mais comme ils fréquentent un collège dans une commune voisine, ils n'étaient pas au village au moment de la disparition. C'est un point que notent les enquêteurs. Rien n'est décelé d'anormal dans le comportement du père et des enfants Vidal. Gilles remercie beaucoup Madame Vidal et la rassure encore en lui disant qu'elle n'y est pour rien. L'entrevue avec l'institutrice a permis de dissocier la disparition de la prévision d'absence de cette dernière. Personne ne pouvait deviner, par exemple, le jour du pèlerinage, que l'enfant serait dans les champs cet après-midi-là. Un corps a été trouvé dans le puits par les plongeurs. Il a dû séjourner dans cet endroit depuis longtemps. Il ne reste que des ossements. Il s'agit d'une personne adulte. Une femme a disparu il y a 10 ans. C'est probablement elle, d'autant que les plongeurs ont trouvé des boucles d'oreilles, un bouton noir d'environ 2 cm de diamètre, 2 bagues et 1 clé rouillée. Il est peu envisageable qu'un homme porte ce genre de bijoux. Le fond du puits, qui se trouve à 8 mètres sous terre, a été fouillé méthodiquement. Hormis des lambeaux de vêtements, quelques bouteilles vides et des boîtes de conserve, il n'a rien d'autre à révéler. La dépouille a été confiée pour autopsie au service de médecine légale. Les enquêteurs de la cellule spécialisée ont convoqué Louis Le Boiteux à la gendarmerie. Étant le plus proche voisin des Léchins, son témoignage mérite d'être affiné. De plus, il est probable qu'il soit le dernier à avoir vu Benjamin à Lianceville. Lorsque le vieil ouvrier agricole arrive à la brigade, son malaise est perceptible. Après avoir été accueilli par le gendarme Buteau, c'est le lieutenant Gilles qui le prend en main. Le fermier quitte sa casquette et la triture dans tous les sens en signe de fébrilité. Gilles lui parle de tout et de rien pour le mettre à l'aise. Louis peut parler de la pomme pendant des heures. Tout y passe. Les pommiers, le greffage, les maladies, le cidre et le calva. Le lieutenant n'élude rien, mais rétrécit de plus en plus le questionnement. La technique est imperceptible. L'homme ne s'en aperçoit pas. Maintenant, les questions tournent autour de sa maison, de Louis et de la ferme Les Champs. Le chef de la cellule parle des parcelles cultivées autour des deux habitations, des arbres, des haies. Les relations de voisinage sont abordées. Louis se tend un peu. Alors Gilles l'oriente sur le sujet de ses parents et de l'héritage de la maison. Le vieux se décrispe. Il s'ouvre sur les parents de Guillaume. Il a été leur ouvrier agricole. Alors, il a beaucoup de choses à dire. Gilles le laisse partir dans cette direction. C'est indéniable, il a été heureux de travailler pour les Léchins. Il aime moins le vieil original. C'est comme cela qu'il appelle le patriarche Hector Léchin. Dans ses bonnes années, il devait être dur avec lui. Alors Louis lui en tient rigueur. Mais ce n'est point de la haine, juste un peu d'inimitié. Gilles souhaite qu'il lui parle d'Aurélie. Il tripote encore plus sa casquette. Le gendarme a compris que le sujet agaçait son interlocuteur. Il décide d'y revenir plus tard. C'est sur Benjamin que la conversation dévie. Il est plus loquace. Il aime bien le jeune garçon. Il s'amuse quelquefois avec lui. Il joue à cache-cache. Le garçon lui vole aussi sa casquette. Le vieil homme jure un peu, et le gamin revient tout penaud lui rapporter son bien. Il parle du garçonnet avec des larmes dans les yeux. C'est son camarade, son copain. Gilles veut savoir si sa mère accepte qu'il partage ses jeux avec lui. L'homme répond qu'Aurélie ne l'empêche jamais de venir le voir. « Justement, monsieur le boiteux, et Aurélie, l'avez-vous vue récemment ?» demande Gilles. « Il y a une semaine, » répond-il. « C'était le jour de la disparition, » précise le gendarme. « Oui, elle était derrière chez elle. » Petit à petit, la technique de l'entonnoir a fonctionné. Maintenant, le lieutenant sait qu'il a vu sa voisine le jour de la disparition. En insistant, il va obtenir des détails qu'il ne soupçonnait pas. Louis, ne sachant pas comment s'en sortir, sans mentir, va révéler ce qu'il a vu. Il avoue avoir contemplé Aurélie Léchins entièrement nue. Il prétend qu'elle est souvent en petite culotte ou bien entièrement dévêtue dans la pelouse située à l'arrière de la maison. Gilles considère que ce témoignage n'apporte pas d'éléments probants contre le vieil homme. Il va quand même vérifier si les chiens ont visité sa demeure. Dans le cas contraire, une descente sera organisée. Avant de le congédier, Gilles lui fait deux recommandations. La première, c'est de ne plus aller mater sa voisine. Ce n'est pas très sympathique. La deuxième, c'est de ne rien dire à personne. Et l'enquêteur saura se taire. Louis, trop content de s'en tirer comme ça, remercie beaucoup le lieutenant. Louis le boiteux parti, il serait intéressant d'en savoir un peu plus sur la vie du couple Léchins, se dit le gendarme. Guillaume a 32 ans, il a repris l'exploitation agricole il y a 4 ans, à la mort accidentelle de son père, retrouvé noyé dans un étang. Il avait raté un virage en voiture. L'autopsie pratiquée ne donna aucune indication sur la cause de la tragédie. En consultant le dossier, Gilles constate que la vie amoureuse du père de Benjamin est inexistante jusqu'à l'arrivée d'Aurélie dans son existence. Guillaume semble très bien s'entendre avec son épouse. Malgré l'insistance de son mari, Aurélie a arrêté ses études aux Beaux-Arts à la naissance de son fils. Elle a mis toute son énergie et son temps dans son éducation. Il le lui rend bien, car ces deux-là sont plus que mère et fils. Ils sont l'osmose de la vie. Elle peint et sculpte divinement bien. Ses portraits sont expressifs, empreints d'une touche de gaieté particulière, comme si un éclair de joie s'était posé sur la toile. Les sculptures sont plus dépouillées. Aurélie s'ingéniant à mettre en avant la matière au détriment du sujet. La jeune femme a gagné plusieurs prix à des concours régionaux. Elle attend que son fils soit plus grand pour se consacrer à nouveau pleinement à cette activité. Sa vie amoureuse est banale. Elle a flirté dans sa jeunesse, quelques aventures sans lendemain, et puis la rencontre avec Guillaume Léchin, le coup de foudre, le mariage, l'enfant et un couple follement amoureux.